Le Christ a tenu parole. Il est vivant comme il l'avait dit. Il est ressuscité comme il l'avait annoncé. Il est vivant comme il l'avait promis. Dieu tient toujours parole. Et notre foi en la résurrection repose tout entière sur l'absolue fiabilité de Dieu. Pour dire sa véracité, l'absolue fiabilité de Dieu, tout ce qu'il dit est vrai et se réalise. C'est réalisé ou se réalisera. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Voilà pourquoi personne n'est comme lui. Personne n'est l'égal de Dieu. Parce que sa parole est infaillible. Avec lui, nous ne sommes jamais déçus. Jamais. Il y avait un catéchumène, il y a quelques mois, dans une autre paroisse, qui se préparait activement, et puis, tout d'un coup, il a arrêté. Il a arrêté sa préparation au baptême. Pourquoi ? Parce qu'il avait été déçu. Il avait été déçu, il avait prié. Heureusement, comme nous tous, il avait prié, mais il avait demandé quelque chose de très précis au Seigneur. Une demande qui était juste, et il n'avait pas été exaucé. Alors il avait arrêté. Et son ami qui me le racontait disait qu'il avait fait cette expérience que nous, baptisés de naissance, nous faisons généralement dans notre enfance ou dans notre jeunesse, cette expérience de la déception. Et lui, il l'avait fait à l'âge adulte. L'histoire finit bien, la grâce de Dieu est intervenue, il a été rattrapé, il a été baptisé cette nuit. Mais la déception, c'est intéressant la déception. Quel est le contraire de la déception? Si vous regardez un dictionnaire, vous dites la satisfaction, c'est un peu court. On peut dire aussi l'émerveillement, ça c'est déjà mieux, c'est plus exaltant. Mais en réalité, le contraire de la déception, l'exemple sublime du contraire de la déception, c'est Pâques! C'est la résurrection! Il est vivant comme il l'avait dit. Nous vivons sans cesse des déceptions. Elles sont d'ailleurs assez intéressantes, parfois, quand elles ne sont pas trop fortes. Il n'y a pas longtemps, à une réunion de préparation au mariage, j'ai invité les fiancés. Je leur demandais, toute l'année, je leur demande d'entrer toujours, de creuser une admiration profonde pour l'autre. Je dis, votre couple repose sur cette admiration. Mais il faut que cette admiration soit lucide. Pour pas que vous soyez... pas aveugle, sinon c'est comme ça qu'on est déçu après. Lucide, éclairé sur les qualités et sur les limites, les faiblesses de l'autre. Et je leur demandais, mais souvenez-vous dans votre vie, déjà, quelles ont été les grandes déceptions que vous avez connues? Quelles sont les personnes qui vous ont déçu? Demandez-vous pourquoi. Nous croyons que Jésus n'a jamais été déçu. Par personne. Il n'a pas été déçu par ses disciples. Le début de l'évangile le dit, il savait exactement ce qu'il y a en chacun, en tout homme. Alors, il y a ceux qui connaissent bien Sainte Faustine, l'apôtre de la miséricorde, celle qui a fait, à qui on a confié ce tableau du Christ miséricordieux. Elle raconte dans son cahier, elle avait 18 ans, le Seigneur l'appelait à la vie religieuse. Et puis, elle ne pouvait pas, parce qu'il y avait des charges de famille, elle ne pouvait pas. Et donc, elle continuait sa vie et le samedi soir, elle allait au bal comme toutes les jeunes filles de son âge et elle a eu une vision du Christ crucifié qui lui dit « Jusqu'à quand est-ce que tu vas me décevoir ?» Bon, elle est rentrée tout de suite au couvent. Mais Jésus n'a pas été déçu, pas plus qu'il n'a eu, contrairement à ce qu'on entend parfois, il n'a eu, au moment de sa passion, il n'a eu aucun sentiment d'échec. Ça, c'est pas vrai. Il n'a pas du tout eu le sentiment d'échec, d'abord parce qu'il n'a pas échoué, mais parce qu'il savait exactement ce qui allait se passer. Il l'a annoncé. Il l'a dit très clairement à ses disciples. Il a dit lui-même qu'il était Dieu, né de Dieu, qu'il retournerait à Dieu, que le Père était en lui et que lui était dans le Père. Et tout ce qu'il dit est vrai. Parce que Dieu tient toujours parole. Ici, pendant le carême, de dimanche en dimanche, j'ai repris toute une série des péchés capitaux, ceux qui sont à la source de tous les autres. Et quand on les regarde ensemble, il manque quelque chose. Il manque ce que tous les péchés ont en commun, qui n'est pas tant l'illusion, la tromperie. Ce que tous les péchés ont en commun, c'est le mensonge. C'est ça qui caractérise. Voilà pourquoi le péché nous sépare de Dieu. Parce que Dieu dit toujours vrai, parce que Dieu ne ment jamais. Le seul qui ne ment jamais, qui soit la vérité et la vie. Cette nuit, dans toutes les églises du monde entier, il y a eu ce qu'on appelle la vigile pascale, la veillée pascale, avec la lecture des principaux textes de l'Ancien Testament. Justement, tout ce qui annonçait ce qui allait se passer. Il y a 7 lectures possibles. C'est pour ça que peu de gens y vont à cette veillée en se disant « Ouh, ça va être long ». Et de fait, c'est assez long. On peut en prendre un peu moins que 7, minimum 3. Mais il y en a une qui est obligatoire. C'est la traversée de la mer Rouge, à pied sec. Parce qu'elle donne son nom à la fête d'aujourd'hui, la Pâque. Le passage. C'est ça la Pâque, le passage. Le passage à la vie éternelle. Parfois nous disons, la mort est un passage. Non, ce n'est pas la mort qui est un passage. C'est la mort avec le Christ. C'est le Christ l'unique passage, l'unique médiateur. C'est lui qui nous conduit vers le Père. Et à Pâques, les promesses de Dieu se réalisent comme elles se sont réalisées dans l'histoire. Voilà ce qui s'était passé avec la traversée de la mer Rouge. Tout ce que Dieu avait promis à Moïse quand il était apparu dans le buisson ardent et qu'il avait dit « J'ai vu, oui j'ai vu la souffrance de mon peuple. » Parce que le Seigneur connaît, il voit nos souffrances, hier comme aujourd'hui. Et il a fait cette promesse à Moïse de descendre pour le délivrer de l'esclavage, le faire monter vers un beau pays, beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, la terre promise. C'est ça la sortie d'Égypte, la libération de l'esclavage, qui préfigurait un événement autrement plus grand que nous commémorons, que nous célébrons, qui nous réjouit aujourd'hui. La sortie du tombeau. C'est ça la délivrance, la résurrection, la sortie du tombeau. L'évangile de saint Matthieu, quand il raconte la passion de Jésus, il dit qu'au moment de la mort de Jésus, le rideau du temple s'est déchiré de bas en haut. La terre a tremblé, les rochers se sont fendus, les tombeaux se sont ouverts et les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent et... Après la résurrection de Jésus, ils sont entrés dans la ville sainte, dans Jérusalem, ils se sont montrés un grand nombre de gens. C'est un passage qui a toujours beaucoup embarrassé les commentateurs à travers les siècles. Calvin, un des grands exégètes de l'Écriture, il était très embarrassé. Il disait, mais pourquoi cela? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Mais alors que c'est l'exacte définition de l'événement de Pâques, la sortie du tombeau, la délivrance. La délivrance, c'est le nom de la résurrection. Et un des premiers actes du Christ, quand on prend les évangiles, comme on va le prendre pendant tout le temps de Pâques, c'est d'envoyer ses anges devant lui pour aller consoler. La tradition dit que la première qu'il est allé voir, c'est sa mère, pour aller la consoler. Il a même dû la consoler longuement. Il a envoyé ses anges pour annoncer que ce qu'il avait annoncé s'était réalisé. Et le premier signe de Pâques, ce qui est maintenant dans le cœur, le cierge de Pâques, la lumière nouvelle, elle symbolise cette sortie du tombeau. Sortir du tombeau, c'est sortir des ténèbres. Il y a toutes sortes de façons de sortir de l'obscurité. Quand on se retrouve, on ne sait plus, on n'a plus d'avenir, quand on se retrouve enfermé, quand on ne voit plus le sens de ce qu'on fait, de ce qu'on vit. Qui nous donnera la lumière? Le Christ! Dans les grands textes du carême, préparatoire à Pâques, il y a une guérison d'un aveugle-né. Guérison d'un aveugle-né. Il se retrouve ensuite guéri, houspillé par les pharisiens incrédules, qui lui demandent, mais qui est-ce qui a fait ça? Comment est-ce qu'il s'y est pris? Et lui, il répond, qui m'a fait? Je ne sais pas. Comment il a fait? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que avant j'étais aveugle, maintenant je vois. Comment est-ce que ça s'est passé? On ne sait pas. Jésus était mort et à présent il est vivant. Voilà l'acte de foi. Et à Nicodème, au début de l'évangile de Saint Jean, il disait, mais c'est impossible de renaître, de naître une deuxième fois ou de naître d'en haut. Et Jésus lui dit, personne, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit Saint, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau et l'Esprit Saint, c'est l'eau du baptême, celui par lequel nous avons été baptisés, par lesquels plusieurs milliers de personnes ont été baptisées cette nuit, 4 femme ici, Anna, Anissa, Clémentine, Margot, par l'eau du baptême ont reçu cette vie nouvelle. C'est le deuxième signe de Pâques parce que l'eau, elle symbolise quoi? Le désir le plus profond de notre cœur, le désir de Dieu. J'ai soif de Dieu, j'ai soif du Dieu vivant. Et c'est pourquoi, avant la résurrection de Lazare, avant la guérison de l'aveugle-né, il y a d'abord dans la montée vers Pâques, la rencontre de Jésus avec cette femme au bord d'un puits à Samarie. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu. Et cette femme dit, donne-moi de cette eau, Seigneur, que je n'ai plus soif. Et nous pouvons dire, Seigneur, donne-moi de cette vie, que nous cessions de mourir, de nous perdre, que nous soyons délivrés de la mort éternelle. Et Jésus lui annonce ce qu'il nous dit à chacun de nous, que désormais cette femme, comme chacun de nous, nous aurons à puiser au fond d'un puits qui est notre cœur, au fond de nous-mêmes, avec la force de l'Esprit Saint. C'est ça le baptême, c'est ça la vie chrétienne, une plongée intérieure, la découverte de notre vie intérieure pour y trouver le Christ vivant. C'est ça, cette plongée tout en douceur, c'est ce que marque le Saint-Crème pour le baptême des petits-enfants, pour la confirmation des adultes, pour être conformé au Christ, doux et humble de cœur. Et le troisième signe du baptême, c'est celui que nous avons chanté, le cri de joie, l'Alléluia, par lequel enfin peut éclater, nous pouvons retrouver le cri des anges, le chant de la liberté retrouvé. Mais s'il y avait une seule chose à retenir, Dieu tient toujours parole. On peut le garder avec les initiales du temps pascal, le temps de Pâques. Marque-nous toujours TP. TP, ça veut dire temps de Pâques, temps pascal, ou tenir parole. L'amour qui tient parole, c'est ça, c'est celui qui comble de joie. Dieu tient toujours parole.